voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage au philosophe Michel Serres, récemment disparu. En 2002, il s'entretenait avec Jean-Paul Dolé. Aujourd'hui, inventé pour les générations futures.
Bonjour Michel Serres. Hier, vous nous avez raconté comment, dans votre enfance et puis après votre jeunesse, vous avez été confronté à deux questions fondamentales, à savoir votre immersion dans la société paysanne, avec tout ce que cela comportait pour votre rapport à l'environnement, comment ça s'était inscrit dans votre corps, dans votre pensée. Et deuxièmement, et on finissait sur cette question la fois dernière, sur l'événement Hiroshima qui avait posé pour la première fois la question à l'humanité de sa propre fin et collective, et pas simplement la question de sa mortalité. Nous sommes tous mortels, la situation est mortelle. Donc aujourd'hui, je voudrais que justement, par rapport à ça, vous interrogez sur la question de votre, si j'ose dire, votre nécessité vitale de faire de la philosophie. Et vous avez cette phrase extraordinaire: la philosophie, c'est pas un champ de savoir particulier, mais c'est une certaine disposition qui, après s'être donné les conditions de possibilité d'y accéder, vous oblige justement, et on revient à ce que vous avez dit un petit peu la fois dernière, vous oblige, pour votre propre compte, à tout remettre sur le tapis et à inventer quelque chose. Donc, si vous êtes d'accord aujourd'hui, je voudrais que on parle de votre conception de la philosophie, qui n'est pas une épistémologie, qui n'est pas un commentaire des textes canoniques de la tradition, mais qui est véritablement une invention.
D'abord, pour repartir de cela où nous étions, vous concevez que dès lors que on a l'impression qu'à un certain moment, la culture fondée sur l'agriculture est en train de s'effacer, car c'est le plus grand événement en effet du XXe siècle, que cette fin de la culture agricole. Nous aurons toujours des agriculteurs pour nous nourrir, mais enfin, nous sommes passés de 70% d'agriculteurs à 2,3%, vous voyez, c'est-à-dire que c'est devenu une activité résiduelle, c'est plus le modèle de l'humanité. C'est-à-dire les hommes politiques au début du siècle avaient une expérience directe de l'agriculture et ne l'ont plus. Très bien. Deuxièmement, cette idée de la mort globale qui nous touche, c'était des événements parfaitement nouveaux. Mais nouveaux de façon énorme. Pas nouveaux comme la révolution industrielle, mais nouveaux par rapport à notre passé. Parce que, au fond, l'agriculture commence avant le début de l'histoire. Et la mort globale n'avait jamais eu lieu. Donc, ce qui me frappait à cette époque, c'était les extraordinaires nouveautés de ces événements.
Et inouï.
Inouï.
Le concept du terme.
Voilà. Le concept de nouveauté me frappait de plein fouet. Par conséquent, nous vivions une période où se passaient des événements si nouveaux que ces événements nouveaux annulaient d'une certaine manière énormément d'opérateurs philosophiques qui le précédaient. C'est-à-dire, nous ne pouvions plus penser le monde tel qu'il était avec les lunettes philosophiques de nos prédécesseurs.
Et de ce point de vue-là, vous avez des mots très sévères,
très sévères.
Sur votre expérience, ce que vous avez appris ou pas appris dans vos études de philosophie.
Oui, on apprenait à commenter. D'ailleurs, la plupart du temps, les philosophes aujourd'hui commentent. Et ce commentaire se faisait à partir de moyens ou d'outils qui eux-mêmes étaient désuets par rapport à tout ce qu'on apprenait dans les sciences ou tout ce que le monde nouveau nous apportait. Du coup, il fallait d'une certaine manière tout remettre en chantier. Et au fond, la philosophie, pour moi, ce n'était pas une reprise du passé, c'était, et c'est toujours pour moi, l'anticipation des conduites à venir, la prévision ou la construction de la maison nouvelle des générations futures. Et donc, pour commencer cela,
le contraire de ce que dit Hegel.
Oui.
À la chouette, la fameuse chouette qui prend son vol une fois la
nuit terminée. Non, voilà. Le philosophe se lève à l'aube.
Voilà.
Voilà. C'est une philosophie de l'aube.
Voilà.
C'est-à-dire, il y a du nouveau, il y a tellement de nouveau que cela prend la philosophie de court. Et donc, d'une certaine manière, il y avait un chantier à reprendre. Et ce chantier, comment le reprendre? Eh bien, avec le geste le plus traditionnel. Au fond, si vous réfléchissez une minute sur nos prédécesseurs, que ce soit Platon, Aristote, Leibniz, Hegel même, dont vous venez de parler, tous étaient d'une certaine manière passés par l'encyclopédie. C'est-à-dire par la totalité des sciences. Platon était un excellent géomètre, un excellent astronome. Aristote était un médecin et un biologiste. Ça se disait pas encore, la biologie. Mais enfin, un très bon spécialiste d'histoire naturelle. Leibniz a inventé toutes sortes de choses en mathématiques, physique et mécanique, etc. Donc, les sciences devenaient la base ou le fondement à partir duquel on pouvait reconstruire. Or, justement, les sciences étaient en train toutes de faire leur révolution. Les mathématiques avaient changé du tout au tout avec les mathématiques modernes d'abord et puis l'informatique. La physique venait de changer du tout au tout avec la physique quantique et puis ensuite la théorie de l'information. Maintenant avec la théorie des éléments et la théorie des cordes. Ensuite la chimie venait de bouleverser complètement le vivant. On venait d'assister, si vous voulez, à toutes les grandes révolutions concernant l'ADN et la composition ou la reproduction des êtres vivants. Toutes les sciences se transformaient et nous n'avions appris que les sciences de la génération d'avant. Il fallait donc reprendre tout à zéro, il fallait réapprendre toute cette encyclopédie. C'est un travail de Romain, c'est les grandes manœuvres, c'est les grands travaux d'Hercule. Et que cela m'ait pris des dizaines d'années, c'est bien normal. Il fallait d'une certaine manière tout reprendre à zéro et laisser un peu tomber les modèles universitaires. Et aujourd'hui, je déplore beaucoup que les universitaires en soient toujours restés, les universitaires dont je fais partie, puisque finalement, j'enseigne moi aussi, mais je trouve que les groupes ou les écoles sont encore restés à beaucoup trop de commentaires. Non, la philosophie, c'est d'inventer les pratiques et les conduites futures, d'inventer des concepts pour les générations futures. Voilà. Mon idée, c'était la nouveauté était si forte qu'elle demandait une invention. Et l'invention était si requise qu'elle demandait un gros travail. Et ce gros travail portait d'abord sur l'encyclopédie. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait cet aller-retour entre les sciences et la philosophie, les sciences et la pensée, les sciences et les humanités, les sciences dures et les sciences humaines.
Voilà. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été aidé, parce que là, vous racontez une histoire un petit peu,
théorique.
Voilà, théorique. Parce que dans certains de vos livres, vous êtes beaucoup plus sévère, si j'ose dire, parce que, paradoxalement, vous nous disiez hier que la génération auquel vous participez a eu cette expérience de la guerre et que maintenant les chefs d'État n'ont pas eu, etc. Mais ce qui me frappe, c'est que vous parlez du milieu intellectuel, de votre jeunesse et même de votre âge mûr, comme, à un certain point de vue, la fameuse formule de Clausewitz, la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, eh bien, j'ai l'impression, en vous lire de temps en temps, que les luttes à l'intérieur du champ scientifique et philosophique sont, d'un certain point de vue, une continuation de la guerre par d'autres moyens.
Et que
c'était très, très dur.
J'ai tout perdu, bien entendu.
Payé cher.
J'ai tout perdu, j'ai perdu ma carrière, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais bon, le jeu en valait la chandelle. C'est-à-dire, quelquefois, il faut consentir à tout perdre pour s'assurer qu'on vit la vie qu'on désire vivre. J'ai toujours voulu construire quelque chose pour notre temps. Or, cela n'était pas possible à l'intérieur de l'université. Enfin, des écoles universitaires telles qu'elles étaient. Prenez un exemple qui n'est pas dans l'université, mais qui vous éclairera le au mieux. Vous vous souvenez que dans votre jeunesse comme dans la mienne, on nous apprenait en morale la théorie de l'engagement de Jean-Paul Sartre. Il fallait que la philosophie, que le philosophe s'engage.
Oui.
Très bien. Alors, Jean-Paul Sartre et ses émules se sont engagés. Ils se sont engagés comment? Ils se sont engagés dans le champ politique. Et s'engageant dans le champ politique, ils ont eu des actions telles et telles, que je ne condamne pas, qui ont été telles et telles. Très bien. Or, dans le même temps, dans le même temps, Jean-Paul Daulé, c'est-à-dire, disons, entre 1940 et 1970, que se passe-t-il ? La société change totalement. Et elle change totalement pourquoi ? Parce que la biologie, la biochimie et la médecine changent. Les corps se transforment. L'alimentation se transforme. La reproduction se transforme. Les questions concernant le monde se transforment. C'est-à-dire le rapport de l'agriculture se transforme. Le rapport des nations se transforme. Le tiers-monde commence. C'est-à-dire toutes ces questions qui affleurent, qui n'affleurent pas encore à la politique, sont en train de remuer dans les couches les plus profondes des événements qui touchent encore plus l'évolution au sens darwinien que l'histoire au sens ordinaire. C'est-à-dire il y a là une plaque profonde qui transforme les corps, qui transforme le rapport au monde, qui transforme le rapport à la douleur, qui transforme la vie profonde des femmes, l'espérance de vie, etc. Une transformation telle que la politique ne l'a pas aperçue. Et par conséquent, celui qui s'engageait en politique s'engageait dans un monde qui n'avait pas perçu sa propre transformation. Il fallait donc d'abord...
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours comme ça ? Ou bien vous pensez que ça a été particulièrement...
Ça a été particulièrement vrai pour une raison très simple, c'est que les philosophes à cette époque refusaient de regarder ce qui se passait dans le monde scientifique. C'est-à-dire, il était... Vous rappelez que Sartre disait « science, peau de balle, morale, trou de balle ».
Oui, oui, oui.
Oui, c'est très bien. Oui. Mais je veux bien. Mais du coup, c'est la science elle-même qui transformait le monde. Vous voyez, ce qu'on appelle un intellectuel aujourd'hui... pardonnez-moi, Jean-Paul Daulé, mais il me semble vraiment que l'homme qui a inventé la pénicilline... Si un intellectuel, c'est un homme qui transforme le monde à l'aide de sa recherche et de sa pensée... Eh bien, celui qui a inventé la pénicilline et la pilule, d'une certaine manière, a été plus un intellectuel que celui qui parle dans le poste sur la dernière guerre.
Oui, je vous pardonne totalement.
Oui,
ça,
oui,
je
pardonnez-moi. Ouais, ce que je veux dire. Alors, du coup, la théorie de l'engagement, il me semble, si vous voulez, que celui qui travaille un peu dans l'obscurité pour regarder vraiment ce qui se passe dans les secteurs où tout bouge de façon profonde est d'une certaine manière plus engagé que celui qui suit à la lettre la devise de Sartre, vous voyez ? C'est ça, l'engagement philosophique, c'est aller assez profond pour voir... Autrement dit, la question la plus difficile à résoudre pour la philosophie, au fond, c'est qu'est-ce qui vraiment est contemporain ? Qu'est-ce qui vraiment est de notre temps ?
Oui,
si vous ouvrez le poste de radio et que vous entendez parler des meurtres et des assassinats et des guerres, vous vous dites « mais ça s'est toujours passé ». Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de nouveau ? Eh bien, en 1950, ce qui se passait de nouveau, ça se passait dans les laboratoires de biochimie. Ce qui se passait de nouveau en 60, ce qui se passait de nouveau en 70, ça se passait ailleurs que là où on le croyait. Vous voyez, les journaux le disaient.
Oui, alors est-ce que vous avez l'impression que c'était particulièrement en France, vous qui avez quand même beaucoup voyagé, bon, ça fait plus de 30 ans maintenant que vous travaillez aux États-Unis, est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, aux États-Unis, mais dans d'autres, en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe, c'était à ce point-là
C'est partout pareil.
C'était partout pareil,
ah, oui.
pas qu'en
Écoutez,
France.
Je n'enseigne pas seulement aux États-Unis, j'ai vraiment enseigné,
oui,
j'ai vraiment eu la préoccupation de mondialiser mon métier.
Oui.
Donc c'est vrai que j'ai enseigné aussi bien dans les Indes, en Afrique du Sud, au Chili, en Corée, en Chine, au Japon, enfin un peu par en Australie, oui. Je crois que c'était un peu partout pareil, qu'au fond, la philosophie était vraiment vivante en France. Et il ne faut pas l'oublier. Dans ma génération, il y a eu de très très bons philosophes, vous voyez. Donc, alors qu'ailleurs, la veine philosophique était un peu tarie, vous voyez. Donc, je ne crois pas que ça soit réellement un cas français. Je crois que c'était un phénomène suffisamment fort pour avoir pris de court la philosophie dans son ensemble.
Michel Serre, tout à l'heure vous parliez du temps, il n'y a rien de plus difficile que d'être contemporain.
Savoir qui est contemporain.
Aussi, ça c'est aussi quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup dans tous vos ouvrages, c'est la question du temps justement. Vous dites que le temps ne passe pas, il percole.
Ah oui.
Ah ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que c'est fondamental, parce que oui. Justement vous venez de dire, voilà, j'ai essayé de mondialiser mon enseignement. Bon, vous dites mondialiser. Bon, voilà. Et donc là, on est aussi devant un problème énorme en ce moment.
C'est le global.
Qu'est-ce que le global? Et puis le temps,
c'est très difficile
pas le même.
À penser.
Voilà.
Alors pour le temps, je peux, si vous voulez, rentrer, si vous voulez, un peu dans le détail. Voilà, on peut distinguer trois sortes de temps. D'abord, le temps de votre montre, Jean-Paul Dolé, c'est simplement la répétition du temps des planètes, c'est-à-dire la circulation des planètes autour du Soleil. Au fond, votre montre, c'est un planétaire de poche. Mais il a été 3 heures hier, il a été 3 heures avant-hier, il a été 3 heures il y a 1000 ans. D'une certaine manière, ce temps est circulaire. Si vous tournez dans l'autre sens, ce serait la même chose. Deuxièmement, il y a un autre type de temps, c'est le fait que j'ai été jeune et que je suis vieux, et que dans un certain moment, je ne serai plus que cendre, et qu'il y a donc une usure du corps. Bref, c'est le temps du second principe de la thermodynamique qui va vers l'entropie et le désordre. C'est-à-dire, biologiquement, qui va vers la mort, vers l'usure, la mort, la fatigue, etc. Ça, c'est un temps qui va que dans un sens, mais qui est toujours en train de décroître. Mais d'autre part, il y a un troisième temps, c'est le temps irrépressible de l'évolution à la mode de Darwin, qui fait que à partir d'un certain genre, il y a des espèces qui sont toujours en train de s'inventer et qui s'adaptent de mieux en mieux à l'environnement. Et ce temps est d'une certaine manière progressif. Je dis par image, par exemple, que mes petites filles sont beaucoup plus belles que moi. Et puis voilà, c'est-à-dire c'est un temps qui progresse. Donc il faut se débrouiller avec ces trois temps. Le temps circulaire, qui est celui de l'emploi du temps, le temps de l'usure, de la fatigue et de la mort, et le temps de la croissance et de l'évolution biologique. Et tout se passe comme si notre vie ou notre corps ou notre histoire se débrouillait avec ces trois temps. Comment les mélange-t-il? Ça, c'est très difficile à comprendre, comment notre corps mélange ces trois temps. Alors je vous propose de réfléchir sur ce mélange-là. Et lorsque on réfléchit sur ce mélange, on considère l'expression « le temps coule ». Et alors, comment le temps coule-t-il? Alors, il coule comme la Seine. La Seine qui coule sous le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils t'en souviennent. Le poète qui regarde la Seine couler ne la regarde pas couler. Là, vous savez, c'est aussi l'expérience de ma jeunesse. J'étais vraiment dans la marine, j'ai vraiment beaucoup navigué. J'ai même navigué sur les fleuves avec mon père autant que sur les mers avec mes bateaux. Si vous regardez la Seine couler, vous apercevez qu'elle ne coule pas sur toute sa largeur de la même façon. Le long des berges, elle ne coule pas aussi vite qu'au centre. Et lorsqu'elle passe un certain nombre de piles de ponts, elle a des tourbillons sur elle-même. Donc, ce mot « couler » veut dire autre chose que l'on croit. Or, le mot « couler » vient du latin « colare » qui veut dire « filtrer ».
Oui, ça c'est...
Alors, quand vous regardez le café qui coule le matin, l'eau qui coule le matin dans votre percolateur, il y a des filets qui passent pas, filets qui passent beaucoup, d'autres qui passent peu, etc. Voilà le mélange. Alors, je dis, le temps ne coule pas, mais il percole. Ben, il se trouve que... vous savez que c'est une fierté de la France d'avoir eu un prix Nobel qui avait inventé la théorie de la percolation, n'est-ce pas? Et cette théorie physique dit bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que le temps est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit, qu'il percole au lieu de couler, et qu'en particulier l'histoire. L'histoire n'est pas linéaire seulement, elle n'est pas progressive ou régressive, elle est mélangée. Ici, il y a des moments d'accélération, là, il y a des moments d'arrêt, là, des régressions sévères, là, des trous, etc. Voilà, c'est un modèle un peu plus compliqué, clair pourtant, mais qui est quand même beaucoup plus solide que la philosophie qu'on avait autrefois du temps, c'est-à-dire un modèle linéaire simple, après, avant, pendant. Oui, oui, oui. Ce qui est un peu simplé et sot. Voilà. Ça fait une philosophie un peu plus riche, un peu plus concrète, un peu plus complète de la temporalité. Oui.
Alors, justement...
Mais vous voyez là à quel point il faut savoir beaucoup de sciences, d'une certaine manière, de biologie, de physique, etc., pour comprendre à quel point la notion philosophie du temps a été améliorée, transformée, reformée, remodelée depuis quelques années.
Et de latin, nous y venons.
Et puis de latin aussi.
Non, parce que justement, là, vous avez fait appel plusieurs fois à des mots latins. C'est pas simplement parce que vous êtes en plus, vous dites que vous avez beaucoup aimé le latin. Vous avez
latin,
d'ailleurs
le grec,
le latin et le grec. Donc là aussi, ça me semble pas du tout quelque chose d'anecdotique. Et pas simplement le fait que bon, il faut avoir une culture la plus encyclopédique, mais il me semble que justement vous avez beaucoup aussi dans votre vie, vous avez essayé d'allier bon la science, la philosophie
et les humanités
et les études littéraires, oui. Les humanités.
Oui, j'y tiens beaucoup.
Ça, vous y tenez beaucoup.
J'y tiens beaucoup pour la raison suivante, c'est que un des dangers que nous courons aujourd'hui dans nos sociétés est un produit pur et simple de l'éducation que nous y avons reçue ou que nos enfants y reçoivent. Pourquoi ? Parce que nous partageons avec beaucoup de soin deux sortes de populations. D'un côté, les littéraires, de l'autre, les scientifiques. D'un côté, les littéraires, je les appelle en général des cultivés ignorants, et de l'autre côté, des scientifiques, que j'appelle volontiers des instruits incultes. Et cette chose est grave, c'est-à-dire elle amène les littéraires à ne plus vivre dans le monde et à se réfugier dans le passé, ce qui est dommage pour la culture humaine, et d'autre part les scientifiques à se précipiter vers le contemporain sans avoir aucune histoire derrière eux et sans avoir idée des responsabilités politiques et humaines que leur science à laquelle leur science peut exposer leurs contemporains. Par conséquent, j'ai écrit un livre tout exprès qui s'appelait « Le tiers instruit »,
voilà.
C'est ça, pour essayer de dire que l'idéal de l'enseignement serait de faire un cercle, mais qui n'aurait pas qu'un centre mais deux, c'est-à-dire une ellipse, où d'un côté il y aurait un foyer très vivant de création littéraire et d'autre côté un foyer très vivant d'invention scientifique. Si on n'unit pas les deux, si on ne réunit pas les deux, on risque vraiment des catastrophes à venir parce que nous aurons des gens formés à tout ce que la technique permet de progressif, mais qui n'en verront pas les conséquences humaines, et d'autre part des gens qui, proches de l'humain, seront toujours dans une expérience esthétique ou relationnelle sans voir le monde contemporain filer devant eux. Voyez. Donc... il me semble qu'il faut prêcher aujourd'hui pour une réunion de ces deux cultures et de ces deux savoirs.
Et vous avez beaucoup prêché cela.
Oui, le vide, je crois.
Oui, bon, oui. Oui. Mais parce que justement, troisième chose, vous disiez que la génération des dirigeants, disons, n'avait pas l'expérience
de la guerre,
oui, n'avait pas l'expérience du monde paysan.
Tant mieux pour eux, d'ailleurs.
Et... malheureusement, ils sont aussi les effets, si j'en les enfants...
Oui, de cette formation.
De cette formation. Et qui va jusqu'à...
Oui, et il m'est arrivé souvent d'aller voir des dirigeants de mon pays. Par exemple, un des dirigeants de mon pays m'avait demandé, il y a quelques années, de faire un rapport sur l'enseignement à distance aux moyens de nouvelles technologies. J'ai remis ce rapport, et d'une certaine manière, personne ne l'a compris. Et j'ai été voué aux gémonies en disant « qu'est-ce que c'est ce philosophe naïf qui veut nous lancer dans des réseaux dont il n'a pas du tout l'expérience ?» C'est très curieux d'entendre les gens réagir. On avait l'impression, si vous voulez, tenez, une impression vraiment philosophique. Pour le coup, vous vous rappelez sans doute des dialogues de Platon où Platon est un homme converti à l'écriture et où Socrate ne veut pas écrire parce qu'il est de tradition orale. Et il tient l'écriture pour la parole morte alors que l'oral est la parole, dit-il, vivante. On voit très bien s'opposer là les deux conceptions du support, l'un tradition écrite et l'autre tradition orale. Et on a l'impression qu'aujourd'hui nous passons par une révolution semblable où on passe de la tradition imprimée à la tradition informatique qui donne exactement les mêmes conséquences que ce type de changement de support, mais où ceux de la génération précédente restent encore dans le modèle qui les a formés, et ils ne peuvent pas passer le saut de ces nouvelles technologies. Et on voit très bien comment ça n'a pas été compris, quitte d'ailleurs à ce que les mêmes hommes politiques ensuite arrivés au pouvoir disent « La France, hélas, est en retard de quelques années sur ces questions-là ». Oui, mais enfin, c'est à eux justement que j'avais remis le rapport.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2002 entre Jean-Paul Dolé et Michel Serres, récemment disparu. À voix nue, réalisation Anne-Pérez Franchini, Assia Khalid, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.